Chers auditeurs de Radio Grand Ciel, nous allons consacrer cette émission d'aujourd'hui également à la musique. Et nous avons avec nous André Bonjour, le président de l'Instrumentarium de Chartres. Et je vais l'interroger tout de suite sur l'Instrumentarium. Qu'est-ce que c'est que cette association que les Chartrains connaissent bien parce que vous êtes très bien connus autour de la cathédrale. Vous organisez régulièrement des concerts avec des instruments du Moyen-Âge dans la crypte de la cathédrale de Chartres. Et il y a des centaines d'enfants qui défilent dans la crypte. Alors, bonjour André, j'ai renversé votre nom et votre nom de famille. Donc, expliquez-nous comment est-ce que vous êtes arrivé à créer l'Instrumentarium de Chartres. Qu'est-ce que c'est que cette association ?
L'association a pour but de refaire, de recréer. Alors la formule, c'est au plus près visuellement, jouable durablement, les instruments qui sont dans la statuaire, les verrières et la clôture du chœur. Et cette idée m'est venue avec Julien Scovron quand moi j'ai commencé la classe patrimoine pour parler de la musique du Moyen-Âge et de la Renaissance aux élèves.
C'était en quelle année ?
Alors ça, c'est en 92.
92.
1992. Et donc, pour parler de musique du Moyen-Âge et de la Renaissance dans la cathédrale, j'ai eu l'idée de partir des représentations d'instruments. Jean Villette, vivant à l'époque, m'a beaucoup aidé, parce qu'il connaissait quasiment par cœur la cathédrale. Sauf que, comme il m'a dit un jour, « Vous savez, monsieur, bonjour, les instruments, c'est pas mon truc. » Mais c'était intéressant, donc j'ai commencé ce travail.
Et il me semble que vous m'avez dit que pour vous familiariser avec les instruments, vous avez lu la Bible en entier.
Alors, voilà. Je me suis dit que pour comprendre, il fallait quand même que je sache pourquoi les gens, d'abord, avaient fait cette cathédrale. Alors ça, je le savais. Et puis surtout, qu'est-ce qu'ils voulaient dire à travers cette cathédrale, puisque l'objet de la classe patrimoine, c'est apprendre à lire la cathédrale. C'est ça l'objet, qui reste d'ailleurs le travail que je fais encore dans cette cathédrale. Alors pour apprendre à lire une cathédrale, il faut savoir qu'il y a des gens qui croyaient dans un dieu, il y a encore des gens qui croient dans le même dieu d'ailleurs, et pour ça, pour expliquer cette croyance, ils ont ressenti le besoin de construire un bâtiment à la gloire de ce dieu, et puis il fallait expliquer l'histoire, la religion, la Bible. Or nous avons eu pendant de longues périodes des gens qui ne savaient ni lire ni écrire. Et en tant qu'enseignant, j'ai l'habitude de dire avec un petit sourire que les statues, la statuaire, les vitraux et les sculptures du chœur sont d'excellents, de magnifiques outils pédagogiques. C'est-à-dire que au Moyen-Âge, et là l'abbé Garnier nous a beaucoup aidés, les gens savaient lire quand ils regardaient la cathédrale, quand ils regardaient les personnages. Donc on a commencé comme ça avec les élèves. Et avec quelque chose d'assez amusant, c'est que j'ai travaillé avec des maternelles. Vous dites à un enfant de 3 ans et demi qu'il y a des petits bonhommes là-haut là, qui tiennent une couronne et ils ont des ailes. Quelle que soit l'origine de la famille, quel que soit le lieu d'où ils viennent, ils vous répondent tous des anges. Alors je leur dis, vous le savez parce que vous en avez déjà vu. Alors les élèves de maternelle disent oui, les plus grands quand même hésitent un peu. Alors pourquoi je dis ça ? C'est parce que pour moi, c'est ça la culture. C'est-à-dire que dans notre pays, quelle que soit l'origine, quelle que soit la croyance ou la non-croyance, dans notre culture, on sait que des personnages dans une église qui ont des ailes sont des anges. Eh bien, puisqu'on le sait pour les anges, pourquoi on ne le saurait pas pour David, pour Jésus, pour Marie et pour l'ensemble des personnages ? C'est ce qui s'est passé au Moyen-Âge.
Oui, parce qu'il y avait un code de mise en image.
Voilà, il y avait un code. Oui, c'est ça, il y avait un code. Et alors, les instruments de musique, et c'est pour ça que je me suis mis à lire la Bible, pour essayer de comprendre. Et puis, je pensais que la Bible m'aiderait à connaître le nom des instruments. La Bible n'a pas été sympa avec moi sur ce sujet. Pour être sûr de moi, j'ai lu 3 Bibles en suivant. La Bible réputée des catholiques, celle de Jérusalem, celle des protestants de Genève, et puis une 3e Bible des moines de Tsi, je crois. La Bible ne m'a pas aidé. Entre-temps, j'ai découvert qu'il y avait la Tobe, donc cette traduction œcuménique de la Bible, qui ne m'a pas aidé non plus, sauf que dans la Tobe, ils sont plus malins. Quand ils ne savent pas le nom, ils mettent instrument à cordes. Non, alors je dis ça avec un sourire parce que, effectivement, c'est un des soucis de donner le nom aux instruments. Mais ça, c'est le problème des spécialistes. Pour en revenir à notre affaire à nous, on s'est aperçu donc que, comme j'ai déjà dit, les instruments de musique, en particulier au Moyen-Âge, c'est majoritairement pas des musiciens. Les vieillards de l'Apocalypse tiennent leur instrument sur l'épaule et autres. Non, c'est symbolique. Et c'est une des difficultés avec nos élèves. C'est que la symbolique, la conception symbolique, c'est pas avant le CM1, CM2. Donc avec des maternelles, c'est pas de ça dont on parle. Mais je crois que c'était important. Et puis de fil en aiguille, eh bien, on regarde les instruments, on les cherche, on les découvre, on cherche à les nommer, et puis on cherche à les entendre. Et à la fin du livre, j'avais écrit que j'espérerais un jour qu'on entendrait ces instruments de musique. Et c'est là où j'étais suivi, puisque une association à l'époque, la CMEC, a fait fabriquer les premiers instruments. Puis depuis, la nouvelle association que je préside a continué, en quelque sorte. L'idée, c'est d'aller jusqu'à 24, mais je pense que dans les projets actuels, on ira plus loin que 24, parce qu'il y a des choses très particulières à Chartres, au niveau des instruments. Alors, comme j'ai parlé des instruments, on va entendre une première musique. C'est une séquence en l'honneur de la musique attribuée à Fulbert de Chartres. Alors on va entendre une partie instrumentale et une partie chantée qui se copient mutuellement.
Cher évêque Fulbert, évêque jusqu'en 1028, était donc un compositeur. Et André Beaujour nous a parlé de ces 310 représentations d'instruments de musique dans la cathédrale de Chartres. Et vous avez cité un livre que, par modestie, vous n'avez peut-être pas voulu le souligner. Parle-nous de votre ouvrage dans lequel, justement, vous faites un recensement de ce travail d'examen des instruments.
Oui, alors aidé par des collègues, dans le cadre justement toujours de cette case patrimoine, donc au départ en direction des élèves, on a relevé ce qu'on appelait les traces de la musique dans la cathédrale de Chartres. Et pour découvrir à cette époque, donc il y avait 307 représentations d'instruments de musique qui se répartissent de la façon suivante. 82 dans la statuaire, 51... plus 3 aujourd'hui, je mets les roses qui ont été découvertes aujourd'hui dans les verrières, donc 54, et 168 dans la clôture du chœur, plus 6 dans la crypte. Ce qui est très surprenant dans la cathédrale de Chartres, c'est qu'il n'y a aucune trace du chant. Il n'y a pas de trace de chant et pas de trace de chanteur. Il n'y a pas de représentation. Alors je me suis renseigné ailleurs, parce que j'ai visité beaucoup de cathédrales, et en fait, il semble bien que ce sera beaucoup plus tard qu'on représentera, comme les musiciens de Memling ou des choses comme ça, on se mettra à représenter les chanteurs.
Oui, parce que je pense que les chanteurs, ils s'inséraient dans une chorale. Donc les fameux chantres qui vont se distinguer par justement ces pièces qui vont rajouter à l'intérieur d'une pièce religieuse, ça leur a valu parfois la prison. Donc la trace des chantres à Chartres, c'est l'une des deux tours à la chapelle Saint-Pierre, où on les enfermait s'ils farçaient peut-être un peu trop pendant la liturgie les pièces.
D'accord.
Mais donc les instruments de musique à eux seuls suffisent effectivement à chanter la louange ou à représenter la louange de Dieu comme vous le soulignez.
Oui, complètement. Donc, si vous voulez, alors, pour parler de ces, par exemple, ces instruments, donc, voilà comment ils sont répartis. Une autre forme de répartition, c'est de vous dire qu'il y a 134 représentations d'instruments à cordes, 149 d'instruments à vent et 27 percussions. Il est donc intéressant de vérifier aussi la répartition. Et on s'aperçoit que, entre la statuaire et les verrières, on a moins d'instruments à vent, ou pour le dire autrement, on a plus d'instruments à cordes, donc la louange à Dieu, et qu'on a beaucoup plus d'instruments à vent dans la clôture du chœur, 16e siècle, où cette fois-ci, l'instrument de musique n'est plus l'instrument qui va être à la louange de Dieu, c'est l'instrument pour le plaisir. Alors, le plaisir, c'est la chasse, c'est la danse, c'est malheureusement la guerre, puisqu'on va à la guerre en musique. C'est pour ça qu'il y a des naquaires et des tambours. Donc, on a y compris dans la cathédrale de Chartres cette répartition, cette histoire-là. Et l'autre histoire, c'est qu'entre le portail ouest, 12e siècle, les porches, 13e siècle, et la clôture du chœur, 16e siècle, on a une histoire de la lutherie. Et ce qui est intéressant, c'est justement de faire fabriquer des instruments du 12e, vielle et harpe. Et puis là maintenant, on a comme projet de faire construire harpe et psaltérion du 13e parce qu'ils vont changer de forme. Et puis on va aller à la Renaissance et peut-être encore une harpe parce qu'elle n'aura pas exactement la même forme. Donc voilà, c'est ça le projet de l'instrumentarium. C'est en ça que c'est un petit peu compliqué mais passionnant.
Et donc là, vous disiez, peut-être hors micro, qu'il peut y avoir des discussions sur les cordes à utiliser, les cordes à boyaux, ou est-ce qu'on prend des cordes modernes? C'est la même discussion que dans le domaine de la musique baroque.
C'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement dans l'histoire de l'instrumentarium de Chartres. Après avoir bien discuté, beaucoup discuté, les trois vielles sont actuellement montées en cordes en boyaux, et la harpe gothique aussi. Et puis, on va continuer à en jouer, on va continuer à rencontrer des spécialistes, et ça va me permettre de passer comme ça au projet de l'instrumentarium lui-même, parce que l'instrumentarium de Chartres actuellement est à un moment de sa vie, si j'ose dire, où je crois qu'on a réussi ce qu'on avait entrepris, c'est-à-dire faire que ça existe. Mais disons que on est satisfait. Mais on pense peut mieux faire, comme on dit aux élèves. Hein.
Alors, il y a combien d'années le premier instrument a vu le jour? Il y a 20 ans
En ce qui nous concerne, les premiers instruments datent de 1996, avec le premier concert dans la cathédrale de Chartres, la sortie du CD Musica Cathedralis, enregistré dans la crypte, et ça, on y tenait beaucoup, car comme ça, on a un son qui est envoyé là où... Théoriquement, on pouvait l'entendre. Et puis, bon, l'autre satisfaction, c'est qu'il y avait l'ensemble Fulbert de Chartres, donc ça aussi. Et puis, en tant qu'enseignant, ben, les classes maîtrisiennes et les CHAM, donc j'avais aussi un peu la responsabilité en tant que conseiller pédagogique. Donc, un travail pédagogique et musical. Mais aujourd'hui, l'archéologie musicale, la musicologie, les universitaires ont continué à chercher, à réfléchir... Et aujourd'hui, on pense que l'instrumentarium de Chartres, il faut qu'on le modifie un peu, qu'on l'améliore, qu'on le fasse encore plus près, si possible, de ce qu'il est dans la statuaire.
Alors, vous avez fait reproduire presque une vingtaine d'instruments, mais qui servent, contrairement à d'autres instruments ou copies, qui servent lors de concerts. Vous organisez dans la crypte de la cathédrale de Chartres régulièrement des concerts destinés à des centaines et des centaines de scolaires.
Oui.
Comment est-ce qu'on organise ces grands concerts?
Eh bien, on fait d'abord appel à la formation des enseignants. Alors, pour les professeurs de musique de collège, ils n'ont pas besoin de moi, ils sont professeurs de musique. Par contre, mes collègues des écoles élémentaires n'ont pas une spécialisation particulière, donc je participe à leur formation. Mercredi, je serai avec eux dans la cathédrale. Et là, pour faire vite, on forme les enseignants à former les élèves à venir au concert. C'est-à-dire qu'on a une expression, il est hors de question que des élèves arrivent tout nus au concert. Donc les enseignants à qui j'explique, on montre les instruments, les écoute, partent avec un document. Ce document, c'est un CD, hein. Il y a d'abord toutes les chapelles de la crypte, car je tiens beaucoup à ce que les élèves entrent par le nord, déambule dans la crypte pour arriver au sud où a lieu le concert. C'est un lieu particulier, une musique particulière. J'ai l'habitude de dire que c'est pas le Tap 50, donc ça veut dire qu'il faut être préparé à cette musique. Donc ils ont déjà vu des photos d'instruments, ils ont déjà entendu un peu de musique. Si bien quand ils arrivent, ils sont pas perdus. Et pour ajouter à ça, donc il y a quatre musiciens hein, sur une estrade montée dans la crypte. Il y a 150, 160 gamins. Et puis, toutes les musiques sont accompagnées d'un diaporama. Mais avec une précision à laquelle je tiens beaucoup, pendant que je présente la pièce, deux phrases, trois phrases, le diaporama est animé. Pendant la musique, le diaporama est fixe et ne sert qu'à essayer de rappeler un certain nombre de choses. Alors, par exemple, il y a la photo de la statue. Puis à côté, il y a la photo de l'instrument, puisque c'est ça l'objet. Le titre de l'œuvre, le nom du compositeur, le nom du luthier, très important. C'est-à-dire le savoir-faire des imagiers, des luthiers et des musiciens.
Où est-ce que vous trouvez les luthiers qui reproduisent ces instruments dont on n'a apparemment pas beaucoup de traces, si ce n'est dans les représentations ?
Eh bien, on fait appel, et c'est pour ça que, y compris là, en ce moment, on est en train de chercher, de trouver de nouveaux luthiers, des gens qui se sont spécialisés. Et parmi les projets, là, ça me fait plaisir parce que je suis invité aux rencontres de musique médiévale de l'Argentière, dans l'Ardèche, au mois d'août, qui réunit, en gros, tous les gens qui sont passionnés par ça. Et donc, on m'a demandé de venir présenter l'instrumentarium de Chartres. Mais en même temps, ce qui est bien, c'est que je vais rencontrer tous les luthiers, justement, qui, aujourd'hui, se disent, attention, on a eu tendance à fabriquer des instruments qui ressemblaient à ce qu'il y avait dans les statues, mais on a eu tendance à utiliser, pour les construire, la technique de lutherie des violons. 18e, rien à voir. Aujourd'hui, il y a des luthiers qui, après avoir beaucoup regardé et étudié, construisent des instruments en essayant de se rapprocher le plus près de la lutherie du Moyen-Âge.
Est-ce qu'ils ont des documents sur lesquels ils peuvent s'appuyer ?
Alors, il y a des documents, il y a de regarder de très très près. Par exemple, si on monte au portail ouest, très proche des vielles, par exemple, on s'aperçoit que les éclisses qui sont autour des vielles, dans nos violons, c'est à peu près... plat, là, c'est creusé. Bien. On s'aperçoit que là où il y a les cordes, dans nos instruments d'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle une table, hein, comme ça, voilà. Et bien là, il n'y en a pas. Une des musiciennes qui va venir avec nous nous a expliqué l'autre jour que de plus en plus de musiciens pensent qu'on ne jouait pas forcément les instruments en les tenant comme on les tient aujourd'hui, mais compte tenu du nombre de gravures posées sur le genou, et que c'est peut-être pas en posant le doigt sur la corde que l'on faisait le son, mais en poussant sur le côté. Donc il y a actuellement des gens qui cherchent, qui font... Donc le rôle de l'instrumentarium de Chartres, c'est pas moi qui vais décider ça, c'est de faire qu'on rencontre ces gens-là, et puis qu'on essaie de construire donc des musiques comme ça.
Il a servi dans la cathédrale un concert par l'instrumentarium et les enseignants, dont Xavier Terrassa, qui a animé une classe d'instrumentistes dans le cadre de l'école du vitrail et du patrimoine.
Absolument. Et ça, c'est dans nos projets, dans ce qui s'est passé. Pour moi, c'était un événement merveilleux parce que donc Xavier Terrassa, qui est le nouveau directeur artistique, puisque j'en profite pour le saluer, Julien Scovron, qui a créé la Morache et qui a créé avec moi l'instrumentarium de Chartres, a décidé de s'arrêter et de jouer de la musique à sa guise. Donc Xavier va le remplacer. Nous sommes en train de créer un nouvel ensemble qui sera uniquement dédié à l'instrumentarium de Chartres. Et nous avons fait appel à une nouvelle musicienne qui est spécialiste et que je vais vous présenter en musique parce que c'est la meilleure solution. Alors c'est la musique qui s'appelle du disque Flore en Versa. C'est un compositeur, un troubadour, mais une femme, n'est-ce pas, qui a écrit cette pièce. Et on va entendre tout simplement eh bien, Domitille Vigneron, qui est notre nouvelle musicienne. C'est elle qui a écrit la musique sur ce poème. Donc on va l'entendre et jouer de la vielle et chanter.
cantarno de gradeta e pies mi vai d'amor che pegna e plu fane mi lu restage care il mal a mersi ai mes mungare me sempre un umbrete troppa e faccio un badaggi.
Donc, très bonjour, présentez-nous la musicienne qui est maintenant membre important de votre association, l'Instrumentarium de Chartres, dont vous êtes président.
Eh bien, donc, Domitille Vigneron, que l'on vient d'entendre, est effectivement une spécialiste de cette musique, mais aussi une spécialiste de la lutherie. Et je souris parce qu'elle fait partie de ces musiciens qui, aujourd'hui, non seulement veulent avoir des cordes en boyau, mais elle fabrique elle-même ses cordes en boyau. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que je pense que, comme on l'a dit, l'instrumentarium de Chartres, je suis persuadé d'une chose, c'est celui qui est le plus entendu et le plus joué. Parce que il y a un instrumentarium qui est magnifique à Saint-Jacques-de-Compostelle, il y en a un autre à Royaumont, il y en a un autre à Nieul-sur-Otise, mais ce sont beaucoup d'instrumentariums qui sont dans des vitrines. Tandis que celui de Chartres, il est entendu par des milliers d'élèves. Au mois de mars, il y a eu exactement 1006 élèves d'école élémentaire en 7 concerts dans la crypte. Et je pense qu'on pourra avoir autant d'élèves en novembre, puisque on essaie d'installer une tradition. Mars, les élémentaires, et novembre, les collégiens. Hein, parce que ça permet dans les programmes de bien s'installer. Donc voilà. Donc l'idée, c'est que on est content de ça. Mais on pense qu'il faut qu'on aille plus loin. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'entoure vraiment de tous les spécialistes. Et pour ça, on a une idée qui est utopique sans doute, mais voilà, c'est qu'on est en train de préparer un colloque pour 2013 en faisant appel justement à tous ces gens qui sont vraiment des spécialistes. Alors il y en a un, ça fait sourire, il s'appelle Lionel Dieu, faut le faire. Il y en a un autre, c'est Christian Brassy. Il y a John Wright qui est celui qui a réaliser le Saint-Jacques-de-Compostelle. Moi, j'ai rencontré tous ces gens-là. J'ai même été invité à un séminaire sur la lexicologie, sur désigner les noms, parce que c'est un peu compliqué. Et j'ai fait une constatation qui m'a conforté dans l'idée que j'avais. La première, c'est que quand vous parlez de la cathédrale de Chartres à des universitaires, à des médiévistes, ils ont les yeux qui brillent, qui clignotent. Pour eux, la cathédrale de Chartres, c'est ce qu'il y a de mieux par rapport à ça. Et la deuxième idée qui m'a conforté, c'est qu'on peut effectivement continuer à travailler pour essayer d'être le plus authentique possible. Donc ce projet un peu fou, c'est un colloque international, pourquoi pas, bien sûr. Essayer de faire qu'à Chartres, au musée, il y ait d'exposer l'instrumentarium de Saint-Jacques, l'instrumentarium de Royaumont, parce que je pense que c'est comme ça que petit à petit, l'instrumentarium de Chartres deviendra, ce que j'espère, un des ambassadeurs de la ville de Chartres. Et je crois que la cathédrale mérite ça. D'autant que c'est la cathédrale, ça j'en suis sûr aussi, qui a le plus grand nombre de représentations d'instruments. Donc qui aura le plus grand instrumentarium.
Et vous avez déjà rayonné avec votre livre qui est lu par des luthiers qui se spécialisent dans la lutherie médiévale.
C'est vrai.
Et c'est un domaine que l'on connaît trop peu, effectivement, comme vous le dites à juste titre. On connaît bien la musique de la Renaissance, mais trop peu la musique médiévale. Mais est-ce qu'il n'y a plus du tout d'instruments authentiques ?
Mais c'est le problème des instruments, c'est que comme ils sont faits en bois, en boyaux et en fer, ils sont détériorés. On a en gros retrouvé deux instruments qui étaient dans un bateau, dans la tourbe, au fin fond d'une mer du côté de la Sibérie, tellement il y fait froid et tellement il y avait de tourbe, mais c'est tout ce qu'on trouve. Alors on a retrouvé un boudos avec des trous du côté de Charavine, on dit que c'est une flûte, pourquoi pas. Mais le problème des instruments, c'est que justement, ce sont dans des matériaux qui sont complètement, qui se décomposent complètement. Donc voilà, donc l'idée, c'est quand même d'arriver à retrouver ça, alors avec toutes les difficultés, mais tout l'intérêt du projet, justement. Et avec le fait que, bon, évidemment, ça coûte, hein, mais moi, je le dis très tranquillement. Jusqu'à maintenant, la ville de Chartres, qui finance, nous a toujours suivis sur ce projet. J'espère que ça va continuer, parce qu'on a beaucoup d'autres idées.
C'est un projet à long terme qui apporte beaucoup à la connaissance de la musique, qui est extrêmement importante, faisant partie des 7 arts libéraux. La représentation au Portail Royal avec la musique qui joue le Tintinnabulum.
Que nous sommes en train de faire refaire. Et ce sera le premier Tintinnabulum daté du 12e qui sera refait. Dernière chose, je voulais dire, parce que c'est le grand plaisir aussi de l'enseignant. L'année prochaine, dans le répertoire départemental destiné aux écoles élémentaires, il y aura un chant du Moyen-Âge dont l'accompagnement musical qui sera proposé sera joué par les instruments de Chartres.
On ne va peut-être pas encore se quitter, mais est-ce que vous nous proposez peut-être un autre morceau joué sur les instruments de...
Ben, je voulais vous proposer, mais j'avais pensé que l'on pouvait finir là-dessus, parce que c'est un instrument, un extrait du livre Vermeil de Montserrat, Lost Set Gods, et il y a tout le monde. C'est-à-dire il y a des voix de femmes, il y a un cœur d'enfant, il y a des voix d'hommes, il y a des vielles, des flûtes, des harpes, des chalmilles, enfin voilà. Tout le monde est là, et je crois que c'est une des façons de vous remercier d'abord, et puis de dire au revoir, à la prochaine fois peut-être.
Je vous remercie beaucoup, André, bonjour, à très bientôt, et au revoir chers auditeurs de Radio Grand Ciel.